Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour tout le monde, c'est Crac Crac, votre podcast préféré que vous écoutez la nuit, caché sous vos draps. Moment polisson autour du micro, moment polochon entre vos cuisseaux. Et pour m'accompagner dans cet océan de vices, elle est Lilo, qui abrite des plages de sensualité. René Grosard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et si Crac Crac est un podcast, lui, il est un podcrade. Bonjour Maxime Donzel.
Bonjour.
Oui, il est vraiment crado. Bonjour Maxime. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au rapport entre la sexualité et l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, la photo, nous allons parler de tous les arts, et si on coupe la queue, elle repousse.
Puisque tous les arts, la queue elle repousse, les arts. Le vent de la sidération souffle sur les plaines, je vous sens aussi perplexe sur mes jeux de mots qu'un touriste allemand devant la banane de Catalan chiffrée à 120 000 euros. Mais rassurez-vous, cette émission sera de haute tenue culturelle, ne comptez pas sur moi pour faire des vannes nulles du type Picasso d'eau, Toulouse Lautrique ou encore Vincent Van Gogh, non. Ne croyez pas que je vais faire des blagues sur le portrait de la jeune fille en feu au cul, non plus. Non, la preuve. Nous avons enquêté sur ce sujet. Récemment, je suis allé au musée du Quai Branly. Ben, il n'y a pas de sopalin. Ok. L'art est sexué depuis l'aube de l'humanité, déjà dans les grottes de Lascaux et leur fameuse première dick pic rupestre. Un bond dans le temps nous amène à la Renaissance où Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Donatello, Maître Splinter se lâchaient à mort pour dessiner des gens tout nus. Mais Gustave, qu'est-ce que tu peins là ? Rien, regarde pas, c'est juste l'origine du monde. Non, pardon Gustave, mais là, la vérité, tu as dessiné ma touche. Bref, autant de questions devant cette émission que devant une installation d'art contemporain. Est-ce qu'une éjac faciale peut être considérée comme un monochrome blanc ? Pourquoi, des fois, après l'amour, mes draps ressemblent à un tableau de Jackson Pollock ? Et du coup, un tableau de Pollock, ça se lave à combien de degrés ? L'énigme du sourire de la Joconde, est-ce que c'est parce qu'elle était assise sur un butt plug ? Tant de questions auxquelles cette émission ne répondra sûrement pas. Mais promis, la toile sera belle, la peinture sera fraîche, et ce pinceau, eh bien ce sera ma b***e.
Hello à toutes et à tous, et merci beaucoup Poulpe pour tous ces jeux de mots qui sont tout à fait artistiques. Hein. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de sexe et d'art. Et puis moi, pour commencer cette émission, je voudrais vous reparler d'un truc qui s'est passé en 1989. Des affiches à fond jaune sont placardées sauvagement sur les murs et les bus de New York. Dessus, on voit une meuf à poil couchée sur le dos, détendue. C'est le corps de la grande odalisque, la dame du tableau d'Ingres, peintre romantique du 19e. Mais au lieu d'avoir sa petite tête de d'habitude, vous savez, cette moule-là, vaguement méprisante qu'on lui connaît bien, et bien cette fois-ci, la dame a une tête de gorille. Et il y a aussi cette question écrite en anglais, mais je vais vous la traduire en français parce que je suis quelqu'un de très gentil. Faut-il que les femmes soient nues pour entrer au musée du Met ? Et puis, il y a aussi ces mots, les femmes constituent moins de 5% des artistes exposés dans la section art moderne. En revanche, 85% des nus sont féminins. Cette affiche, on la doit à un groupe de meufs féministes, artistes, qui sont encore aujourd'hui existantes et qui se font appeler les Guerilla Girls, et qui organisent tout un tas d'événements militants autour de l'art. Et voilà, donc comme je le disais, ça c'était en 1989. Qu'en est-il maintenant ? Bah, l'affiche a été réactualisée en 2012, et vous allez voir, c'est une révolution de ouf ! Puisqu'on y lit désormais que... les femmes constituent moins de 4% des artistes exposés dans la section art moderne. En revanche, 76% des nus sont féminins. Et puis d'abord, quand on y pense, pourquoi représenter toutes ces femmes à poil ? Et pourquoi on voit si peu d'hommes nus dans l'art ? Et pourquoi ça ne choque personne quand les femmes sont couchées, nues et lascives ? Mais, étant parlé tout à l'heure, Poulpe, hein, à propos de Courbet, quand il peint une chatte en gros plan et l'appelle l'origine du monde, là tout le monde fait des cris choqués de ouf. Pourquoi ? Hein ?
Je sais pas.
Pourquoi ?
Je sais pas.
Mais pourquoi ?
Alors en plus, il l'avait pas appelé l'origine du monde, hein. C'est un nom plus tardif.
Ah.
Il l'avait appelé le vase, ce qui est pire.
Ah oui.
Claire Mingon, merci Claire Mingon.
Ça c'est, voilà. Est-ce que le sexe aujourd'hui, c'est encore sale dans l'art? Est-ce que c'est encore sulfureux? Est-ce que faire l'amour, c'est de l'art aussi? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec nos deux invités géniales. Je vous présente Claire Mingon, qui est historienne de l'art et spécialiste des chefs-d'œuvre du patrimoine érotique. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Je ne verrai plus jamais les vases de la même façon.
Ouais, c'est à tout,
et nous avons le plaisir de recevoir Romy Alizé, qui est une artiste photographe, féministe et queer, mais aussi travailleuse du sexe. Bonjour Romy.
Bonjour.
Depuis 3 ans qu'on a lancé Crac Crac, je n'entends parler que de toi, Romy, sur la
Désolée.
Planète sexe. Non, au contraire, c'est un honneur de t'avoir dans cette émission. Nous aurons, hélas, également Maxime Donzel et ses chroniques. Un déshonneur. Nous aurons un reportage de René et le répondeur de l'émission. Franchement, à ce stade, c'est plus une émission, c'est du Dali. Je vous le chiffre à 250 000. C'est parti. Claire, tu es donc historienne de l'art. Alors d'abord, question bête, mais pas inutile pour bien cadrer cette émission. C'est quoi l'art?
Tu y vas franchement là.
Ouais, mais bon, ouais, tant qu'on dresse un peu le tableau, quoi.
Bah écoute, c'est surtout des images en fait. Hein. C'est d'ailleurs ce qui pousse parfois à l'éclosion de scandales, c'est que les gens confondent la réalité et l'image. Une œuvre d'art, c'est une représentation. Hein. Ça n'a pas vocation à forcément dire le réel, à nous dire la vérité. Hein. Et c'est pourquoi bah, on attaque parfois les œuvres d'art contemporain en pensant qu'elles nous parlent de la réalité. En fait, c'est le regard d'un artiste, finalement, hein, sur des questions de société, souvent. Hein, voilà, donc c'est fait pour interpeller.
Oh là là, elle est vraiment historienne de l'art. Ouais, ouais.
Je suis même maîtresse de conférence, tu vois. Tu peux m'appeler maîtresse si tu veux.
Ok, maîtresse.
Aïe, aïe, aïe.
Faut pas le lancer.
Non, mais surtout, Claire, et donc pour qu'on reste dans le thème de l'émission, que ça s'envole pas tout de suite, pourquoi est-ce qu'il y a autant de sexe dans l'art?
Bah écoute, en fait, il y a beaucoup de nudité dans l'art, davantage que de sexe, hein, puisque depuis l'époque préhistorique, dans les grottes, il y a des représentations de femmes nues, et d'hommes aussi, hein, d'ailleurs, au demeurant, parce qu'on attribue finalement au corps des femmes ce symbole de fertilité, en fait. Hein, la femme porte l'enfant, etc. Donc, on les vénère, en fait. Hein, c'est le thème des Vénus. C'est à partir de la Renaissance, hein, qu'on représente plus de femmes nues que d'hommes nus dans l'art. La seule différence, en quelque sorte, c'est que la femme est érotisée, alors que la représentation de l'homme nu, si tu regardes par exemple dans les musées un Apollon nu, en général tu verras que le mec il n'est pas en érection. Tu vois, il a un tout petit pénis en fait. Pourquoi? Parce que le sexe n'est pas le sujet en fait de la nudité masculine. C'est plutôt la force, l'héroïsme, la jeunesse en fait qui est le cœur de ses œuvres.
La virilité quoi.
La virilité.
Pour voilà. Changer.
Mais sans la représentation finalement du sexe en tant que tel.
Et est-ce qu'on peut parler 2 minutes du concept de la muse? Est-ce que c'est pas le truc le plus sexiste du monde cette affaire? La muse bloquée comme ça qui ne dit rien?
Bah, je crois pas que la muse soit bloquée, ni les modèles non plus, en fait. Hein, quand on fait un peu l'étude fine de l'histoire des modèles, on voit que c'est des femmes qui ont du caractère, en fait, en général. Alors, évidemment, la femme, c'est souvent des grisettes, des lorettes pour le 19e, hein, c'est-à-dire des filles qui sont des couturières ou un petit peu des aventurières qui cherchent à arrondir leur fin de mois en posant nues pour les peintres. Mais dans les écoles des beaux-arts, par exemple, dans les classes où il y a souvent des manifestations sexistes, on connaît des histoires de modèles qui se sont opposées à ça, justement, hein, qui ont dit non, en fait, tout simplement, à cet état de fait. Je sais pas ce que t'en penses, Romy. Mais...
Oui. En fait, je suis d'accord. Je pense que le fait que ce soit des hommes qui, à chaque fois, soient les artistes et, effectivement, ce truc de la signature et de qui va, récupérer les lauriers d'une œuvre, peut-être que c'est ça qui a fait que Muse Modèle semblait être une
entité commune, mais en fait, je crois pas.
Est-ce qu'il existe des muses hommes, du coup?
Écoute, il y a à partir du 18e dans la littérature et du 19e, en fait, l'apparition du terme de l'homosexualité, en fait, hein, qui devient une source d'inspiration. Alors, finalement, plutôt pour une sorte de contre-culture de l'époque, hein, Oscar Wilde, ou même Michel-Ange, par exemple, avait un copain, un petit ami, auquel il écrit des lettres enflammées, mais qui ne sont pas diffusées, en fait, bien sûr, de son vivant. Mais tout ça a été connu, en fait. Hein. Michel-Ange peint des hommes nus, et tout le monde sait, malgré le fait que ce soit prohibé à l'époque, il est un si grand artiste qu'en quelque sorte, on passe l'éponge, finalement, sur sa vie sexuelle.
Est-ce qu'il existe des muses hommes pour femmes artistes?
Alors, pas tellement, en fait. Hein. Il y a peu de femmes, enfin, sauf à notre époque contemporaine. Hein. Romy en est un bon exemple. C'est une artiste. Il y a beaucoup de femmes artistes aujourd'hui qui font beaucoup de dessins, notamment, beaucoup diffusés par les réseaux sociaux, Insta, etc. mais il y a peu de, dans l'histoire, on va dire, de l'art, il y a peu de femmes artistes, effectivement, qui peignent des hommes nus, quoi. Ça, c'est... Par contre, il y a des hommes artistes qui peignent d'autres hommes nus.
Parce
Raphaël, par exemple, tu sais que Raphaël, il est mort quasiment, on dit, d'épuisement sexuel. Je ne sais pas si ça t'arrivera.
Quelle chance. Ouais.
T'approches de tes 40 ans.
J'essaye,
ça te pend,
j'essaye. Beaucoup de cardio, voilà. Hein. Alors, Claire, tu es professionnelle du scandale. Dans l'histoire de l'art. Est-ce que il y a eu, est-ce qu'il y a eu un scandale érotique qui a eu un impact sur l'histoire de l'art ?
Alors, un scandale en particulier, tu vois, je pense à l'origine du monde, évidemment, mais c'est un tableau en fait de 1866 qui n'a pas été exposé à l'époque.
Alors, je le rappelle pour peut-être les gens qui ne savent pas, l'origine du monde, c'est le quasiment que le vagin d'une femme qui est peint.
C'est ça, ouais. C'est le bas de.
Le vagin aussi.
Ouais, c'est le sexe d'une femme avec des lèvres entrouvertes. Hein,
je me suis trompé, le vagin c'est l'intérieur du sexe.
Le vagin
sexe,
c'est l'intérieur
d'accord.
De la dame, ouais. Donc c'est plutôt son extérieur qui est représenté. On voit ses poils. Ouais, ouais.
Par rapport au fait que j'anime une émission sur la sexualité.
C'est sa vulve, c'est sa vulve.
Enfin, c'est sa vulve, exactement.
La zézette, c'est la zézette en fait qui est peinte, donc voilà, donc on va pas m'apprendre mon job non plus en fait.
Alors c'est amusant de savoir d'ailleurs si les historiens s'interrogent à savoir si c'est une scène post-coïtale ou pas. Hein, donc tu vois, donc on peut aller loin en fait hein, dans la discussion autour de cette œuvre. Et donc Courbet n'a pas exposé de survivants parce que c'est immontrable en fait à cette époque. Il y a énormément de tableaux au 19e qui ont choqué, mais qui pour nous aujourd'hui nous sommes extrêmement prudes quoi. Alors par contre, il y a une histoire qui est intéressante sur l'origine du monde, c'est le scandale qu'elle a créé cette œuvre en 1995 quand elle est rentrée au musée d'Orsay. C'est Douste Blasi qui est ministre de la Culture. Mais le mec, il est maire de Lourdes en même temps. C'était cette belle époque du cumul des
petit
mandats.
Petit conflit d'intérêts. Voilà.
Donc, il n'y a aucune photo de Douste Blasi à côté de l'origine du monde pour ne pas froisser son électorat local, hein, n'est-ce pas ?
C'est beau.
Voilà, donc ça, c'est drôle. Tu vois, c'est dingue. Ça, c'est amusant.
Dans toutes tes recherches, Claire, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment impressionné ou en tout cas qui a fait une œuvre que tu as trouvée la plus étonnante au niveau de la sexualité ?
Écoute, moi, c'est Brancusi, quand même, avec Princesse X. C'est une œuvre qu'il faut que vous regardiez. Une sculpture hein, qui représente en fait une sorte d'énorme... Enfin, c'est une forme qui évoque très fort un pénis, quoi. Voilà, c'est explicite, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est un objet extrêmement esthétique. Et Brancusi le présentait plutôt, lui, comme une sorte de représentation d'une Vénus des origines. On sait pas, c'est une forme, en fait, qui est androgyne, en quelque sorte. Elle est à la fois femelle et mâle. Voilà, c'est une œuvre sublime qu'on peut trouver notamment à Beaubourg.
Trop intéressant. Et c'est quoi la frontière finalement entre un objet pornographique et une œuvre d'art ?
Alors, la pornographie peut servir en fait de source d'inspiration pour un artiste. Donc à ce titre, elle peut faire partie de l'histoire de l'art. Hein. Je dirais pas que la pornographie est un art. En revanche, il y a dans l'art effectivement des représentations explicites de sexe, d'accord, de scènes sexuelles. Et ça, ça date pas d'hier en quelque sorte.
Je vous parlais d'un truc peut-être un peu gênant pour moi. Mais voilà, je vais vous parler du syndrome de Poulpe. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça a de nom. Alors je lance une bouteille à la mer. Si des gens ont la même chose et ont le syndrome de Poulpe, qui me contacte pour que je sache si je suis seul ou pas. On connaît le syndrome de Stendhal. Je vais le réexpliquer. C'est le fait d'être bouleversé physiquement devant une œuvre d'art. C'est qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, qui en regardant par exemple une toile gigantesque, vont tomber dans les pommes. C'est le syndrome de Stendhal. Moi, j'ai un autre truc. Quand je regarde un artiste en train de travailler de façon hyper minutieuse sur une œuvre, que ça soit du dessin, que ça soit de la sculpture, peu importe, mais en tout cas quand quelqu'un est hyper concentré et est en train de fabriquer quelque chose, et que moi je vois ça, je l'ai eu 3-4 fois dans ma vie, parce que c'est compliqué à se retrouver dans ce genre de configuration-là, mais j'ai un orgasme du cerveau complètement dingue, où j'ai une chair de poule de fou, j'ai l'impression que mon cerveau explose et que mon corps se disloque. Je vois bien dans le studio que tout le monde me regarde.
Ouais.
Voilà, à nouveau le vent de la sidération. Est-ce que ça existe, ces trucs-là ? Est-ce qu'il y a alors déjà, ça vous parle ou pas ? Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas ?
Non.
Voilà, je me sens si seul.
Non,
voilà.
C'est ça.
Alors déjà, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, contactez-moi s'il vous plaît, j'ai l'impression d'être fou et seul. Bref. Claire et Romy, est-ce qu'à votre avis, il existe des œuvres qui peuvent exciter le spectateur physiquement ? Physiquement, je parle.
Bah oui, c'est un syndrome fétichiste, en fait, qui est connu depuis l'Antiquité. Tu n'es pas seul, tu vois. Depuis l'Antiquité, en fait, on a alors plutôt autour des statues. en fait, du fétichisme des statues, c'est-à-dire le fait de tomber amoureux. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est tomber amoureux, c'est le vivant qui tombe amoureux de l'inanimé, en quelque sorte. Hein.
Okay.
Tu vois, d'être amoureux d'un objet, en fait. En pâmoison, se masturber sur l'objet ou en pensant à lui, etc. Donc, il y a un exemple très célèbre, c'est la Vénus de Cnide, de Praxitèle. Donc, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est une représentation d'une femme nue, le premier nu, en fait, plus ou moins naturaliste d'une femme. Et donc, on raconte qu'il y a un Grec qui était éperdument amoureux de cette statue et qu'il aurait souillé de sa semence et que donc, il aurait été pendu.
Ah. Ah.
Voilà. Et donc, ça s'appelle, ce que tu ressens, visiblement, ça s'appellerait, enfin, ça se rapproche de l'agalmatophilie.
Ah ouais.
On peut dire juste le syndrome de poulpe. Moi, ça me. Je vais le déposer, je vais choper des stock options. Merci Claire pour ces lumières. Certains aiment le beau, le sublime, les chefs-d'œuvre, et d'autres, comme Maxime Lonzel, préfèrent passer leur journée sur Internet. C'est le moment de SOS plaisir, Maxime.
Merci Poulpe. Bon, écoute, d'après mes recherches, le moins qu'on puisse dire, c'est que la question de l'art, ses contours et sa définition soulève chez les internautes de nombreuses questions d'ordre sexuel. Par exemple, j'ai trouvé un message de Stuart Liddell. Je précise que c'est un vrai pseudo et que c'est un vrai message. Il demande sur un forum: on me propose un job d'été dans un musée, mais j'aimerais savoir, quand on taffe dans un musée, ça baise ou pas ? J'ai un pote qui a bossé un mois à Orsay et il n'y avait pas du tout de baise nulle part. Il paraît que t'as fait dans un domac, c'est 100% de chance de baiser. Vos avis ? Alors, je me suis renseigné auprès de mes amis du milieu pour ne pas que nos amis des musées soient désertés par les jeunes travailleurs. Alors j'ai fait mes petits calculs, je suis formel. On parle de 30% de chance de baiser quand on bosse au Louvre, 67% au musée du Corbillard dans le Tarn-et-Garonne, et alors là, seulement 6% de chance de niquer au musée du Papier Peint qui est à Rixem dans le Haut-Rhin.
Bah, au moins on peut s'essuyer, ce qui est quand même
bravo.
Ouais, moi j'ai un peu de doute sur tes chiffres, hein, Maxime, mais j'en profite pour rappeler à Stuart Liddell que draguer ses collègues n'est pas idéal puisque ça peut rapidement être vécu comme du harcèlement sexuel, surtout quand ça concerne un subalterne. Je me disais que c'était bien de le rappeler. Voilà.
Et je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais niqué au boulot. Donc, d'accord. Bon, on va passer au message suivant. Salut, j'aimerais poser pour une peinture car l'art m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas envie de servir de modèle lors d'un cours, hein. Plutôt un seul artiste et obligatoirement une femme. Je pourrais poser avec un autre modèle, à condition que ce soit une femme. J'ai déjà imaginé plusieurs positions, des angles intéressants. Ça fait un moment que je cherche cette femme artiste, mais j'ai jamais eu de proposition. Des idées signées Petit Polisson.
Ah.
Alors, là, ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas du tout pourquoi c'est sur un forum sexo. Enfin, c'est bizarre. Le monsieur a dû se tromper. En tout cas, on comprend pas pourquoi il n'y a pas de proposition, parce qu'en plus, il a accompagné son annonce d'une photo de lui, alors, avec les jambes écartées, ce qui est très intéressant pour... l'étude anatomique de... Oh, il y a aussi son... Qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est son anus. Oh, regarde René.
Non. Et malheureusement, l'émission de Continuer Poulpe, tu enchaînes.
Oui, bon, après, il a une très belle étoile. Hein. Bref, au XXe siècle, avec le surréalisme, le cubisme ou l'art conceptuel, toutes les règles ont explosé dans l'art. Et pourtant, au XXIe siècle, les règles reviennent en force sur les toiles. Par rapport aux règles sur les tableaux. C'est ce que tu vas nous démontrer avec ton docu, René, c'est ça ?
Oui, c'est ça, car en effet, pour ce reportage, je suis allée à la rencontre de John Anna, une artiste qui a une particularité, elle peint avec son sang menstruel. Voilà, donc là, je suis en train de marcher vers le café où je vais retrouver John Anna. Elle a 29 ans et elle peint donc avec son sang menstruel depuis 2012. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Poulpe, pour le reportage, écoute, on fait une émission sur le sexe et l'art. Bah, il se trouve qu'il y a des filles qui font de l'art avec leur sexe. Bah, du coup, voilà, c'est plié, hein. Et voilà, on arrive. Salut John Anna, ça va ?
Oui, ça va.
Du coup, John Anna, j'ai envie de te demander en premier, pourquoi ? Pourquoi peindre avec son sang menstruel ?
Ben, ça m'est venu quand je faisais mes études pour être graphiste, quand j'étais en BTS. Et on avait dû faire un petit dossier sur un sujet qui nous plaisait. Moi, j'avais pensé au thème du sang. Et du coup, j'ai commencé les recherches pour mon petit dossier. Donc, j'ai découvert... plein d'artistes, surtout hommes au début, qui peignaient avec leur sang. Et après, au fur et à mesure, j'ai trouvé des artistes femmes aussi qui utilisaient le sang de leurs règles. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est évident en fait. Je me demande comment j'y ai pas pensé avant moi-même. À ce moment-là, j'avais mes règles aussi. Et je me suis dit, mais ça y est, c'est le destin. C'est le moment d'essayer. Rien que pour moi-même, par rapport à mon propre corps, déjà, ça m'a aidé à me libérer de quelque chose. Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, au début de la puberté, quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'étais tout le temps super mal à l'aise quand je les avais. Je trouvais ça dégoûtant, je n'osais même pas les regarder. Mais finalement, en peignant avec, ça m'a aidé à me libérer par rapport à mon propre corps, à l'assumer, à être fière de ce qu'il produit.
Comment tu procèdes en général? Comment tu fais quoi? Tu fais des réserves avec des cups
Au début, c'était quand mes serviettes et mes tampons étaient bien imbibés. En fait, je m'en servais en pressant sur la feuille dessus pour faire des formes un peu abstraites. Et puis après, je voyais en redessinant ce que ça pouvait donner. Mais après, je me suis mise à la cup parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique pour récupérer directement le sang et le mettre dans un petit pot. Parce que comme ça, je le mets au frigo.
Est-ce que pour toi, ce tabou, il a raison d'exister ou pas du tout?
De toute façon, pour moi, les tabous, je trouve que c'est quelque chose qui empêche les gens d'être heureux, en fait. Quand il y a un tabou, bah, ça donne naissance à des mal-êtres, à des complexes. Je pense que ça empêche les gens vraiment de pouvoir vivre pleinement, d'être heureux, de s'assumer, d'être fier.
C'est quoi les trucs les plus violents que tu as lus ou qu'on t'a écrit parce que tu peignais avec ton sang menstruel?
Alors, j'ai eu plein de réactions diverses et variées dans les trucs négatifs, mais c'est celle que je trouvais le plus intéressante parce que c'est celle qui révèle pas mal de pensées, de mœurs. Et pour moi, quand on fait de l'art, bah, il faut que les gens y réagissent. Même si c'est du super négatif, et bah, c'est important que les langues se délient en fait, de donner la parole aux gens. Voilà.
Bon, alors voilà, maintenant l'idée c'est de passer aux travaux pratiques. Parce qu'en fait, moi, mes règles, je les ai eues il y a 2 semaines. Donc là, j'avais pas de matos pour peindre. Mais du coup, j'ai demandé à ma pote Anastasia et elle a accepté qu'on aille chez elle et qu'on peigne avec son sang. Donc elle va nous prêter son sang qu'on ne lui rendra pas a priori. T'as déjà peint avec le sang de quelqu'un d'autre ou
Non, ce sera la première fois.
Parfait.
Et voilà, on y est.
Coucou.
Est-ce que t'es prête, Anna, à peindre avec ton sang?
Je suis complètement prête.
Eh ben, on va pouvoir passer aux choses sérieuses.
Bon, allez, c'est parti, du coup.
Ouh. Ça fait... Bon, en fait, c'est comme de la peinture, hein, mm-hmm. Quand tu mets ton pinceau dedans.
C'est un nouveau type d'aquarelle, quoi.
Ouais, ça, en fait, ça fait de l'aquarelle. Et tu peux être vachement plus dans l'introspection, aussi. Des fois, tu peux entrer dans une sorte de méditation, quand tu fais ça... Tellement, moi, je sais pas, ça me relaxe.
Ouais. Oh, un grumeau.
La vie en rouge.
Et au moins, c'est un matériau qui est pas cher.
Ça sèche vite après.
Oui, là où il y en a plus, ça séchera moins vite. Et puis après aussi, ça fera une petite croûte qui, des fois, peut s'écailler.
D'accord.
Avec le temps.
Ok.
Ça donne un côté vintage.
Ok. Là, je colorie bien.
Voilà.
Wow. C'est trop beau. C'est trop beau ce que tu as fait, Janana. Magnifique, même, je dirais.
Merci.
Voilà, alors là, on arrive au moment de la surprise, du coup, mais c'est une toute petite surprise. C'est qu'il se passe un truc, non, samedi, Anna? Qu'est-ce qui se passe samedi?
Samedi, nous nous marions.
Et ben voilà, c'est notre cadeau de mariage.
Merci.
Crac-crac vous souhaite d'être très heureux dans la vie et d'aller très loin dans votre couple et dans votre amour.
Merci Crac-crac.
Merci René, ton reportage m'a vraiment mis la gouache. Sacré petit pinceau. Alors, toi, Romy Alizé, la légende Romy Alizé, tu te définis comme une artiste queer et féministe. Très concrètement, ça change quoi dans ton travail et qu'est-ce que tu fais?
Non, en fait, je suis artiste et tout simplement, je suis féministe et queer par ailleurs, et lesbienne et travailleuse du sexe. Et donc, forcément, ça se nourrit, mais je suis artiste.
Bon. Avant tout.
Ouais.
Mais il y a des frontières poreuses, comme on les appelle.
C'est poreux.
Alors, vu qu'on est dans un podcast et que c'est pas très graphique, par définition, le podcast, est-ce que tu peux nous décrire, pour qu'on comprenne bien ce que tu fais, est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, j'y vais vraiment, je ne sais pas, hein, ce que tu vas dire. Tu peux nous décrire ta dernière œuvre, par exemple?
Ma dernière œuvre notable, puisque j'ai fait quelques merdes récemment.
Oh non!
C'est
mais
se
si,
vendre.
Mais c'est très
non.
Bien, il faut savoir rire de son travail et être humble.
Alors, c'est quoi ton dernier buzz, Romy?
Non, la dernière photo qui était mûrement réfléchie, comme toutes mes mises en scène, puisqu'à chaque fois, c'est. Enfin, voilà, je prépare ça en amont et je fais ça de façon très précise. C'est une photo sur le travail du sexe que j'ai fait avec une amie collègue. En fait, ce que je voulais mettre en scène, c'était la relation à l'argent et tout le trouble que ça peut créer chez moi, chez peut-être d'autres travailleuses du sexe aussi, en posant avec énormément de billets, voilà, comme un nuage de billets autour de nous. donc des billets de 50 parce que j'ai pas trouvé plus. c'est semi-impressionnant. Comment dire, je me sentais pas vulnérable, mais un petit peu. En fait, j'avais très très peur qu'on interprète cette photo comme une espèce de glorification de l'argent, cet argent facile qu'on est censé gagner en tant que pute. Et en fait, pas du tout. Moi, c'est l'inverse. C'est plutôt ce rapport très conflictuel que moi je peux avoir avec cet argent qui est gagné rapidement et pas facilement, mais qui, enfin voilà, mine de rien.
Alors, du coup, ta photo, c'était.
Bah, la photo, c'est donc mon amie Laure et moi. On est en petit short de sport et on. Bon, on est blasé comme d'habitude dans mes images et il y a un nuage de billets autour de nous.
C'est très chaste.
Ah oui.
Ah.
Mais les photos de Romy sont, enfin, globalement, je trouve très esthétiques et.
Ah mais c'est oui, c'est pas
je
la
question.
Je pense
qu'il y a une photo explicite toutes les, pas, toutes les 15 photos.
Tous les équinoxes.
Bah, c'est-à-dire que non, mais il y a un moment où on arrive aussi un peu au bout des choses explicites. Enfin, j'ai photographié du fist, j'ai photographié de me faire pisser dessus.
Voilà, bon, merci Romy. C'était exactement ça que j'attendais. Merci Romy. Merci Romy. Donc justement, t'as plein d'activités, t'es photographe, réalisatrice, performeuse, et tu te définis aussi comme actrice chienne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je suis un peu jaloux, je voudrais faire pareil.
Actrice chienne, c'était pour dire de façon plus rigolote et élégante que je faisais du porno, parce que j'aime pas dire actrice porno.
Ouais.
Enfin voilà, c'était juste une appellation marrante. Voilà, maintenant c'est bergère pute, je change un peu. J'aime bien les chèvres.
C'est tellement bucolique, c'est tellement
c'est
bucolique.
C'est merveilleux.
Mais oui.
Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir artiste ? Est-ce qu'il y a une œuvre, une expérience qui t'a impacté ?
Non, en fait, c'est un peu. Ma trajectoire, elle est un peu différente. J'ai commencé très tôt à regarder beaucoup de magazines de charme, de photos de nues et à être complètement fascinée par ces images de femmes qui posaient nues.
Okay.
Ce qui aurait pu me quitter à un moment à l'adolescence est devenu une sorte d'obsession et moi, je voulais devenir ces femmes-là. Donc moi j'ai commencé en me disant je serai pas artiste parce que a priori j'ai aucun talent, mais je vais pouvoir être la muse et la modèle des grands artistes, donc tous ces hommes à qui je vais pouvoir écrire. Et en fait ça s'est passé comme ça, j'ai commencé à contacter en fait des photographes et à un moment il y a eu un petit déclic, une sorte de d'élan d'émancipation et un désir d'indépendance et d'autonomie qui a fait que je me suis dit mais en fait c'est
à toi de créer,
c'est à moi de créer mes images.
Alors justement, maintenant que tu es passé de l'autre côté de l'objectif, sur tes shootings, comment tu gères une mise en place dite classique de shooting ? J'ai vu par exemple une série de photos où tu as demandé à tes copines de poser à côté de toi avec des plugs dans l'anus. Comment ça se passe sur le set en fait ? Est-ce qu'il faut que l'ambiance soit un peu sulfureuse et excitante pour faire ce genre de shooting ou au contraire c'est hyper désexualisé et très stylisé ?
Quand je suis impliquée aussi à l'image, je fais un dessin, je mets en scène, je place la personne avec qui je pose et puis on a 10 secondes pour se placer, je fais 15 photos et je dis elle est dedans ou elle est pas dedans quoi.
Mais et du coup comment au niveau de l'ambiance, comment tu gères tes comédiens et comédiennes ?
Moi je suis assez speed. Je sais vraiment ce que je veux.
Donc tu dis, mais tout de suite un butt plug.
Ouais, non, mais c'est, en fait, c'est
pas... Il y a 15 secondes, il y a le retardateur, mets le butt plug.
C'est l'inverse du sensuel. C'est,
ouais, c'est ça.
Et
okay.
Pourtant, il y a quand même des images où, quand je me fais fister, on se dit que oui, il y a bien eu une préparation. Mais pour moi, la préparation, elle est complètement dénuée de toute forme d'ambiguïté ou de désir. C'est plutôt, allez, on lubrifie et hop.
Ouais.
Et c'est quoi.
C'est génial d'avoir l'envers du décor.
Et est-ce que tu sais peut-être que Romy, c'était un célèbre marchand d'art érotique ? Chez lequel Douaneau a fait des séries de photos extraordinaires, en fait, où il se met dans la vitrine. Il y a un tableau du 19e, une bonne femme un peu à poil, et il photographie la réaction des passants.
Ah, c'est génial.
Il faut que tu regardes ça, c'est canon, dans les années 40. Et donc, tu as le couple avec le mec qui regarde comme un dingue, et la meuf qui fait semblant de rien voir. Tu as l'inverse, tu as la femme qui regarde, et le mec qui est aussi un peu déstabilisé. Ouais. T'as le policier qui regarde et qui est un peu genre grosse barbe et tout le bazar. Enfin, je sais pas, c'est un pas de rapport avec ça, ton nom ?
Pas du tout, mais c'est mon vrai prénom.
D'accord, ok.
Mais je vais le dire à ma mère, elle va être
ravie. Et du coup, pour reparler de ton travail encore, qu'est-ce que t'as observé comme réaction du public devant tes œuvres ?
Alors, le pire que j'ai eu, le plus peut-être blessant, c'est un critique photo qui m'a dit que c'était l'œuvre d'une dégénérée de la génération post-Sacha Grey.
Travailler à valeurs actuelles.
Et donc, je me suis dit, Sacha Grey, ça tombe bien parce que je l'aime beaucoup.
C'est plutôt.
En fait, c'est un peu la comparaison. Ouais. C'est un peu dire t'es pas artiste, t'es une pute. Sauf que, bah, pas de chance, je suis les deux. Ouais. Enfin, donc, d'un coup, l'insulte, elle tombe à plat. Il y a des remarques sur le. Enfin, il y a des gens qui glorifient ce qui se passe, c'est-à-dire, ah oui, tu es une grande dominatrice, j'aime beaucoup ce qui. Alors que, pas du tout, c'est pas vraiment ça. D'autres personnes qui, justement, se disent, c'est hyper drôle, mais cette mine complètement désabusée, ce regard complètement cynique sur ta génération. Voilà, c'est. Après, il y a pas mal de critiques sur des fois la technique aussi, c'est arrivé. On m'a dit, mais le sexe, c'est du mouvement, là tout est figé. Ou alors, mais pourquoi tu regardes? Parce que pour moi, c'est très déstabilisant, ces regards.
Romy, est-ce que tu as des limites en termes de mise en scène de la sexualité ou de la nudité?
Ben non.
Tu te fixes des limites dans ce que tu fais?
En fait, il y a un sujet en ce moment avec Marianne Chargois, avec qui je prépare une performance où on parle. On va parler de caca, parce qu'elle, elle est dominatrice professionnelle et que bah, elle fiste énormément, du coup, d'anus. Et moi, par ailleurs, je suis aussi vendeuse de culottes sales et j'ai des demandes.
Bien évidemment. Ouais. Pourquoi on aurait
tout aussi particulières. Et en fait, j'ai beaucoup d'anecdotes et beaucoup de réflexions par rapport à ça que j'ai écrites. Et avec Marianne, on discute beaucoup de ce rapport-là parce qu'elle me dit, bah, c'est marrant, c'est le dernier endroit dans lequel j'ose pas, moi, aller, parce qu'évidemment, elle a des demandes de clients. Enfin, voilà.
On voit.
Scatophile, quoi.
Ouais, oui, on imagine.
Pas besoin d'expliciter.
Non.
Et elle me dit, ça me rend encore vulnérable, en fait, de m'imaginer chier sur un client. Et je dis, bah ouais, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vendu une culotte et que j'ai un. Enfin, voilà, j'étais rouge pivoine. Moi, j'ai cru que j'avais fait une erreur. Je me suis rétamée dans la rue. Enfin, et en fait, il y avait un vrai truc avec la honte.
Le sale, quoi, ça a un rapport
sale,
avec ça.
Ouais, l'idée ouais. d'être vraiment. Et en fait, maintenant, ça, c'est un peu. Je me suis relaxée là-dessus. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Ok. Merci Romy. Pour ces voyages. Merci Romy. Claire Mingon, toi qui es historienne de l'art, est-ce que tu valides le travail de Romy? Attention, suspense.
L'histoire le dira, comme elle le suggère.
C'est beau. Bah, tu sais, sur cette phrase-là, Claire, t'as battu Stéphane Bern au clash des historiens. Bravo. bravo. Duchamp l'a montré, tout peut être art. Un urinoir qui recueille l'urine, c'est de l'art. Un répondeur qui recueille des messages du public, c'est de l'art aussi. Et c'est notre rubrique du répondeur de l'émission. Et aujourd'hui, on a reçu un message un peu spécial, puisque c'est une amie et collègue à toi, Romy. On écoute Elisa Monteil.
Alors, tu me demandes ce que c'est le truc le plus fou et cul que j'ai fait dans une œuvre artistique. Franchement, j'hésite. Est-ce que c'est la fois où je me suis fait attacher, suspendre en shibari et dans un parc à Montreuil à côté de chez moi? Est-ce que c'est la fois où j'ai fait la morte et qu'on m'a mangé de la viande crue toute sanguinolente sur tout le corps pendant 20 minutes? Est-ce que c'est la fois où je me suis retrouvée à fumer de la tête dans le cul de quelqu'un ou de prendre un petit déj en mettant des doigts dans la chatte d'une copine? Est-ce que c'est la fois où j'ai joué une masturbation à poil recouverte de sang en chaussures à talons au milieu d'une zone industrielle? Ou est-ce que c'est la première fois où j'ai roulé une pelle à Romy Alizé? Pas facile de choisir.
Oh,
mignon.
Wow. Oh mignon. Merci à toi, Elisa. On peut retrouver son travail sur le site de sa compagnie dansleventre.fr et avec actuellement son spectacle Rivière Sale. Et justement, à propos de saleté, en cours de dessin, il avait toujours zéro parce qu'il dessinait que des chibrous. Il y a l'art brut, il y a l'art naïf et justement, on l'a bien été en signant son contrat. Voici Maxime Donzel et sa rubrique Culture Beat.
Eh oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors pour cette spéciale sexe et art, je suis allé regarder du côté des biopics d'artistes. Ces films où le peintre est triste au début et puis il trouve le succès, mais soudain la drogue et malgré l'argent et le talent, voici la mort. Et moi, comme je suis un adolescent en rut depuis maintenant 30 ans, ma question c'est, est-ce que ça baise? Et la réponse est oui. L'atelier du peintre est l'excuse idéale pour montrer des madames toutes nues, les jambes écartées, full bouche dehors, les unes sur les autres. Attends, essaie cette position plutôt et vas-y. Cambre, c'est pour l'art, t'inquiète. En revanche, quand le peintre va chez le docteur, comme dans Van Gogh de Maurice Pialat, voici ce qu'on entend.
Déshabillez-vous.
J'enlève aussi le caleçon.
Vous pouvez Gardez le caleçon.
Oh non, ça recommence, c'est une malédiction. Où sont les beats dans les biopics? En plus, on a déjà le terme parfait pour les décrire. Les biopics dick pics. Je vais vous dire, j'ai calculé. Il y a moins de beats dans tous les biopics d'artistes réunis que dans la salle 206B de l'aile Sully au Louvre, que je connais très bien, parce que j'y vais souvent. C'est un scandale. Pas un popole dans Pollock, pas de Brakmar dans Basquiat, pas de gros machin dans Gauguin. Vous me direz, oui, mais bon, on s'en fout de l'anatomie du peintre, le génie n'est pas dans le pantalon, l'artiste... Ok, ok, je vous entends, mais je vous réponds d'un contre-exemple. Frida Kahlo.
Attends, si tu crois que je vais coucher avec toi parce que tu m'as prise sous ton aile, tu as tort.
Spoiler alert, elle va coucher. Et ça, je peux vous dire que là, tout d'un coup, l'anatomie de la peintre, c'est super important. Des gros plans sur les nichons de Salma Hayek, visiblement, ça permet de mieux comprendre l'importance majeure de l'artiste sur la peinture postcoloniale au Mexique. Il y a même une scène de cul très explicite au milieu du film, entre les femmes bisexuelles Frida Kahlo et Josephine Baker. Ah oui, ah bah, c'est sûr que c'est hot stuff sexy time, hein. Mais attention, c'est tout de suite moins marrant quand on apprend que la scène lui a été imposée à Salma Hayek par Harvey Weinstein. Mmh. Voilà, j'ai bien tué l'ambiance là. Alors je vous rassure, j'ai quand même fini par trouver de la biopic dick pic dans le film consacré au photographe Robert Mapplethorpe.
Bien. Et si tu enlevais ton futal, est-ce que tu peux me la montrer? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue.
Ah bah forcément, quand on parle de gay, tout de suite, ah bah y a de la bite, hein. Alors ça, c'est à peine cliché, hein. Ah, forcément, quand on est gay, on est obsédé par la bite, hein. C'est comme si moi j'avais une chronique qui s'appelle Culture Beat. Oui, bon, ok, je viens de me rendre compte là du truc. Bon, alors, pour finir, comme toujours, je suis allé chercher du côté du cinéma porno. Pas beaucoup de biopics d'artistes célèbres, hein, dans le porno, bizarrement. Alors si, j'ai quand même trouvé un Picasso, figurez-vous. On écoute un extrait. Oui, j'aurais dû préciser, c'est Eduardo Picasso, un acteur de porno gay brésilien qui a un pinceau de 27 cm. Ce qui prouve quand même que le vrai talent... Ça s'apprend pas, hein. Faut être né avec.
Merci Maxime, et c'est la première fois depuis qu'on travaille ensemble que le mot culture est justifié dans le nom de ta rubrique. Franchement, bravo, au bout de 2 ans, bravo.
Enfin. Ouais.
Et on arrive à la dernière partie de l'émission pour les oreilles ludiques et les petits polissons. Quiz, c'est le quiz.
Et oui, c'est le moment de jouer pour nos invités, mais aussi chez vous, vous pouvez jouer avec des questions autour du thème de l'émission. Pour jouer, Claire et Romy, vous avez des buzzers, alors je vous les paramètre.
Jouer ensemble.
Alors,
c'est les femmes, regarde toujours sur une sororité, c'est les derniers mecs, ils seront là, oh, je vais gagner.
Je vous paramètre vos buzzers. Claire. Voilà, je te laisse le tester. Teste-le dans le micro. Super.
C'est une chèvre.
Romy.
Please.
Tu peux le tester. Super. Alors.
Très moi.
Donc, plein de questions. 5 points par bonne réponse. La gagnante aura une semaine, tout compris, au musée d'Orsay. C'est pas mal, non?
Ouais. Bon, ma carte de... On connaît.
Budget illimité à la machine à snack. Non, toujours pas.
Okay. On baise.
Ah, quand même. T'as dit quoi?
On baise au musée d'Orsay.
Il y a l'origine du vase.
Eh ben voilà, la Claire, je la reconnais, la Claire. Voilà. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Je vous sens vraiment au taquet. Ok. Yves Klein utilisait des pinceaux très particuliers pour sa série d'anthropométrie. Lesquels? Oui, Claire.
Des femmes.
Des femmes?
Nues.
Non, c'est ça, des corps de femmes en entier, effectivement. Mais comment ça marchait, en fait? Je comprends pas.
Bah, écoute, il les enduisait de peinture, et puis, comme un chef d'orchestre, il disait, fais ci, fais ça, et elles se roulaient sur la toile, et ça imprimait un corps.
Mais après, il les lavait au White Spirit
pour faisait avec. Hein. Ouais. Mmh. Et puis, après, il faisait ça devant un public, puis il mettait un orchestre, et etc.
Bons gros délires du week-end.
Ouais, c'est okay. Ça.
On passe à la question d'après. En 2016, l'artiste et militante suisse Milo Moiré a proposé une performance de rue nommée Mirror Box. Que proposait-elle aux passants?
Horrible ce truc.
Mais non, en fait, je confonds avec sa performance où elle éjectait des œufs de sa chatte.
Ouais, en fait, elle propose à des passants de mettre leurs mains pour toucher ses seins,
toucher sa chatte.
Dans une boîte en miroir.
Mais en fait, tu sais que c'est un reenactment, c'est-à-dire elle refait en fait une performance.
C'est Vali Export qui a fait ça.
Ça s'appelle dans le milieu de l'art, ça s'appelle faire une Gad Elmaleh. Ça s'appelle comme ça dans le milieu artistique.
Et ben voilà. Ouais. Elle n'avait rien inventé.
Ouais. Ok. Pour des photographes d'art, qu'est-ce qu'il est impossible de montrer sur Instagram ?
Des tétons.
Des tétons. Quoi d'autre ?
Des poils pubiens.
Oui.
Des scènes avec suspicion de situations érotiques aussi. C'est sale. Hein,
ah bon ?
Ah, oui. C'est sale. Oui, oui, oui.
Attends, mais je comprends pas. C'est genre, on pourrait croire qu'ils font une levrette.
Ouais, il fut un temps, j'ai eu des images qui ont sauté alors qu'il n'y avait pas de nudité, mais il y avait quand même une tension.
Oui, mais
tension.
Parce que toi, t'es fiché S chez Instagram.
C'est vrai.
Oui, c'est pour ça.
J'avoue.
Moi, j'avais essayé un anus ouvert, je pouvais même pas l'envoyer. Je pouvais même pas appuyer sur envoyer, ça sautait direct. On passe à la question d'après. Citer au moins deux réalisatrices qui introduisent une dimension artistique dans la pornographie. Au moins deux.
Il y a l'américaine Shine Louise Houston et il y a eu Émilie Jouvet.
Ouais, bien. Allez, donne-moi une troisième pour qui t'a fait un cachet d'intermittent. une espagnole, fais-moi plaisir, Romy.
Ah, Eric Alas.
Bah oui, quand même.
Ouais, mais c'est trop connu.
Ok, en tout cas, c'était un point pour Romy. Bravo, on passe à la dernière question de ce quiz. Où les gens apprennent en s'amusant et ils jouent chez eux. L'artiste Jeff Koons a mélangé les codes de l'art et du porno d'une manière bien particulière en 1991. Mmh. Comment ? Alors, Romy est on fire. Romy.
Non, mais il a posé avec la Cicciolina.
Plus que ça.
Il a fait l'amour avec, oui. avec elle, enfin.
Plus ouais. que ça encore. Il est allé très loin dans la performance avec la Cicciolina.
Mais il l'a épousée.
Mais oui,
ouais,
bravo.
Bravo.
Il l'a épousée.
Ça allait
star,
de soi, quoi.
Ah bon, quand on baise, on épouse, bah, d'accord.
Non, mais j'ai pas retenu okay. ça, quoi.
Voilà, il a épousé la star porno la Cicciolina des années 90. Qui,
et son bisounours aussi.
Et ses nombreux petits oursons en peluche, effectivement. Crac, crac. Qui a gagné ? T'as compté les points.
C'est merveilleux.
Pas de cadeau du coup.
Bon, bah, tant pis pour les Smarties.
Ouais.
Bravo les filles. Crac crac, c'est comme l'art contemporain. C'est fini.
Oui, mais ça c'est dit.
Oui, mais comme l'art contemporain, on reviendra quand même le mois prochain.
Oh.
Merci beaucoup Claire Mingon. On
Merci
peut continuer
à
réfléchir à tous ces sujets passionnants en lisant ton livre Les Scandales érotiques de l'art, qui est publié chez Beaux-Arts Éditions.
Et puis merci beaucoup à toi Romy Alizé. On peut suivre ton travail sur ton site internet et sur ton compte Instagram Romy Alizé. Puis ton dernier film Romy et l'or et le mystère du plug enchanté. Un beau programme pour les enfants.
Pour un hiver.
Merci beaucoup Claire et Romy.
Merci à
beaucoup.
Toi.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'un épisode est en ligne, à partager cette émission pour que le virus se répande, et puis à mettre un max d'étoiles, et puis nous taguer René, Maxime et moi si vous avez des questions ou des remarques. Salut à toutes
et à tous.